beaucoup pour votre accueil. J'ai assisté avec beaucoup d'intérêt à tout ce qui a été dit depuis les... Attendez, porte, ça commence bien. Bon, donc, merci beaucoup pour votre accueil. J'ai assisté avec beaucoup d'intérêt à ce qui a été raconté depuis le début de l'après-midi. Je vais tâcher de compléter un petit peu en rebondissant sur un certain nombre de choses qui a été présentées ce matin par Stéphane Le Foll. Et puis j'ai eu le plaisir, au-delà des différentes missions que vous avez citées sur la PAC, sur l'installation et sur l'agriculture biologique, de tenir la plume, enfin c'est un travail collectif, mais sur le projet agroécologique que vous avez pu prendre à l'entrée. Donc je suis voilà, tout disposé à répondre à toutes sortes de questions sur le sujet. Donc je reviens pas, parce que sinon je vais faire perdre du temps à tout le monde sur les enjeux auxquels il faut qu'on fasse face et sur la certitude que l'agroécologie est une réponse possible face à ces enjeux. Pour moi, ce sont des acquis. La question, c'est comment réussir la transition et plus particulièrement le rôle de l'État. Enfin, je reviendrai après sur ce qu'on va mettre notamment dans la loi d'avenir pour l'agriculture et l'alimentation. Mais je voulais rappeler d'abord quelques fils conducteurs. Alors ça va beaucoup reboucler avec des choses qui ont été dites, mais c'est pour montrer aussi qu'on est pas mal en phase avec tous ces aspects-là. Ils ne sont pas forcément d'ailleurs par ordre de priorité. Ils vont ensemble. Un premier élément, c'est peut-être une évidence. Enfin, je ne sais pas, c'est pas encore évident pour tout le monde, notamment quand j'entends certains courants majoritaires du syndicalisme agricole, c'est l'idée de ne pas opposer la production et l'environnement. Parce que tant qu'on ne sera pas sorti de ce principe d'opposition qu'on traîne depuis des années, on n'arrivera à rien construire ensemble. Le deuxième point, c'est quelque chose qui revient souvent dans le discours du ministre, sortir d'une logique normative. Pendant des années, enfin même peut-être depuis 20 ans, on a cherché à corriger des modèles en mettant des normes dessus. Un modèle de production, par exemple, qui a entraîné un certain nombre de difficultés avec les nitrates, notamment en Bretagne, et puis dessus, il y a la directive nitrate, un certain nombre de circulaires, d'arrêtés, pris des fois conjointement avec le ministère de l'Environnement, des fois seulement par le ministère de l'Environnement. On a bien vu que c'est pas comme ça qu'on réussit à résoudre le problème. On a des problèmes de court terme auxquels on est obligé de faire face dans le cadre de la réglementation qui existe, mais on a aussi une volonté à long terme de s'engager dans une dynamique plutôt d'incitation, plutôt de reconnaissance de choses qui existent, de diffusion de ces modèles. Et ça va passer par la mobilisation de toute la gamme des outils dont dispose le ministre de l'Agriculture, depuis la formation qu'on a évoquée, en passant par la recherche, le développement agricole, et puis l'orientation des aides, mais j'y reviendrai après. Après, il y a un troisième fil conducteur qui nous paraît important de suivre dans la mise en œuvre de ce projet agroécologique, c'est de reconnaître et de comprendre la diversité. Il n'y a pas une agroécologie, ça a été dit souvent, mais c'est important qu'on dise qu'on comprend bien ça. Il n'y a pas un modèle unique. Il y a fondamentalement une approche de système qu'il faut mettre au pluriel, et il faut arriver à trouver des réponses adaptées aux écosystèmes. Donc, il y a des gens beaucoup plus savants que moi sur le sujet qui se sont exprimés cet après-midi. C'est vrai que renouer avec l'agronomie un peu complexe, ce n'est pas quelque chose d'évident. Et ça fait lien avec ce que disait ce matin Stéphane Le Foll. L'idée, c'est d'arriver à intensifier la connaissance de ces modèles pour pouvoir ensuite les diffuser. Et pour ça, il faudra notamment qu'on arrive à changer de grille de lecture. J'ai entendu François Léger tout à l'heure parler du bon agriculteur. Et c'est vrai que les critères, peut-être encore d'aujourd'hui, un petit peu d'avant maintenant, mais quand même, il y avait le club des rendements, ceux qui font au moins 50 euros à l'hectare et des choses comme ça. Il y a des grilles de lecture qui sont plus appropriées quand on parle d'agroécologie, c'est ne serait-ce que passer à la marge brute plutôt que de raisonner en rendement. C'est-à-dire regarder pas juste ce qu'on produit, mais l'ensemble, y compris du chiffre d'affaires qu'on peut dégager, parce que finalement, si on fait un peu d'économie sur les intrants, sur l'eau, sur les antibiotiques, on en a parlé, même si on produit peut-être un tout petit peu moins en quantité, au final, pour l'agriculteur, la marge brute, elle est au moins constante, et dans un certain nombre d'exemples concrets qui existent, qu'on a vus en France, elle s'améliore. Ensuite, il y a un autre fil conducteur qui a été évoqué, c'est celui de la territorialisation, et puis je fais le lien avec la notion de démarche ascendante. La territorialisation, on la comprend à plusieurs niveaux. Il y a le niveau local qui est très important, ça ne sert à rien d'inventer les choses depuis Paris, et puis on a entendu souvent parler de l'implication des collectivités territoriales, et nous on est tout persuadés qu'il y a un avenir croissant à la régionalisation sur tous ces sujets. La démarche ascendante, elle vient aussi du principe que l'innovation, finalement, que les agriculteurs sont capables de mettre en œuvre, parce qu'il y en a quand même qui font des choses dès aujourd'hui, elle prend corps face à des besoins concrets qui sont rencontrés sur le terrain. Et ça ne peut pas marcher si on fait que de l'innovation descendante à partir de projets de recherche, par exemple, même s'ils sont très bien dans les livres, il faut encore aller confronter ça aux besoins réels qui existent sur le terrain auxquels les agriculteurs doivent faire face. Et ça répond aussi à une logique d'adaptation qui est importante. Le cinquième fil conducteur dont je voulais vous faire part, c'est cette notion d'arriver à être concret, de se fonder sur des exemples, en partant, alors il y a un certain nombre de choses qui vont pas, c'est vrai, mais il y a aussi un certain nombre d'exemples qui sont déjà réussis et qu'il faut arriver à diffuser, ce qui suppose de les décortiquer, de comprendre pourquoi ils marchent bien. Donc là, à nouveau, on a besoin de la science, ensuite on a besoin de la formation et on a besoin de la démonstration. Et dans toute l'histoire du développement agricole, la démonstration, les essais au champ, le principe de petits groupes d'agriculteurs qui se réunissent pour voir comment ensemble ils pourraient résoudre une difficulté à partir d'exemples réussis, c'est quelque chose qui est assez fort en termes de sociologie du développement agricole et c'est quelque chose sur lequel il faut absolument s'appuyer dans la mise en œuvre de ce projet agroécologique. Ensuite, il y a un autre fil conducteur, c'est celui d'approche d'ensemble. Alors, je ne vais pas vous relire tout le petit document que vous avez pu consulter et que je suis sûr que vous connaissez déjà bien. Il y a tout un ensemble de volets, de la recherche en passant par l'enseignement, le développement agricole, l'agriculture elle-même, avec notamment une dimension collective. Donc ça, c'est une première notion d'approche d'ensemble. Ensuite, ça a été dit cet après-midi, c'est très juste, donc je le relève. Il y a la notion de ne pas travailler que sur le produire autrement, mais il y a aussi quelque part une question de consommer autrement. Et en tout cas, il faut absolument qu'on ait cette logique de filière, au pluriel, de l'amont, en passant par la transformation vers l'aval, jusqu'à la distribution. Après, il y a une question d'ensemble, un certain nombre d'acteurs. Ce n'est pas juste un développement qu'on arrivera à réaliser avec les agriculteurs, parce qu'on s'adresse et on prend compte d'un certain nombre d'attentions qui sont mises en avant par les citoyens et par les consommateurs. Je fais volontairement la différence entre les deux, parce que quelquefois, les exigences du citoyen sont pas tout à fait orthogonales, mais pas forcément complètement parallèles à celles exprimées par les consommateurs qui pensent aussi, malgré tout, en fonction de leur porte-monnaie. Et puis après, au-delà de ces sphères-là, il y a aussi tous les élus locaux qui ne sont pas forcément des spécialistes de l'agriculture qu'il faut absolument arriver à impliquer sur le sujet. Et après, je termine cette notion d'approche d'ensemble avec l'idée que vous avez soulignée ce matin et qui nous paraît très juste, c'est développer une approche interministérielle sur le sujet. Ce n'est pas juste le ministère de l'Agriculture qui va réussir à provoquer ce changement. Alors, il va de soi qu'on le fera avec le ministère en charge de l'écologie, mais ça nous paraît également pertinent, et c'est en tout cas quelque chose qu'on va mettre en œuvre dans le programme national Ambition Bio 2017, d'impliquer aussi, par exemple, le ministère de l'Éducation, de la Santé, de l'Économie sociale et solidaire, du Développement, pour ne citer que ceci. Alors j'ai encore deux autres fils conducteurs, mais je tiendrai dans les 20 minutes, c'est promis. Il y a la notion de collectif. Elle a été dite beaucoup, le ministre y croit, vraiment. C'est à la fois la notion de collectif d'agriculteurs au niveau de territoire, mais c'est aussi tout le collectif qu'il y a dans tous les réseaux, dans toute leur diversité. On a parlé des CIVAM, on parle aussi des chambres d'agriculture, des coopératives. Tous ces réseaux, du haut vers le bas et du bas vers le haut, ils ont un pouvoir important pour mettre en œuvre ce projet agroécologique. Et puis le dernier fil conducteur qui me paraît important de rappeler, c'est la notion de diffusion. Le ministre disait ce matin dépasser le stade pionnier. On n'est pas capable aujourd'hui de compter combien il y a d'agriculteurs en France qui font de l'agroécologie. Ça serait encore plus difficile si on essayait de compter ceux qui font de la bonne agroécologie. On peut dire peut-être entre 5 et 10%. Alors, en tout cas, c'est pour l'instant pas la majorité. Et à côté de ça, on vise, je ne sais pas exactement combien, mais disons, alors ça dépend des références, on le comprend, disons 400 000 exploitations en France. C'est notre cible. Ça correspond à peu près aux gens qui bénéficient des aides de la PAC aujourd'hui, parce que je sais bien qu'il y a 500 000 exploitations, mais bon, voilà. Disons, on voudrait viser à peu près de cet ordre-là. Donc il y a vraiment une notion de dépasser le stade pionnier qui oblige aussi du coup à se mettre à la place des gens auprès de qui on veut diffuser ce projet. Donc ça, c'était un certain nombre de fils conducteurs sur lesquels on pense s'appuyer. Et maintenant, je vais essayer de répondre à la question quel est le rôle de l'État là-dedans. Marc Dufumier disait avant, il faut créer les conditions du changement. C'est effectivement un des rôles importants de l'État. L'État, il a aussi le pouvoir d'orienter des soutiens publics, dans le respect d'un certain nombre de règles communautaires, je reviendrai après, mais quand même, il a un pouvoir d'orientation fort et qu'il entend jouer pleinement. Et puis peut-être avant tout, le rôle de l'État, c'est de fixer un cap et de le tenir avec constance. Alors après, j'entends bien, j'ai entendu un certain nombre de gens qui peuvent douter de la réalité de la mise en œuvre de ce cap. Pour l'instant, ce ne sont que des discours, on verra bien ce que ça donne, c'est tout à fait votre droit. Après, juste dans le discours, quand même, il y a un petit changement entre l'environnement, ça commence à bien faire, et le projet agroécologique présenté par Stéphane Le Foll, présenté en Conseil des ministres, avec l'appui d'un certain nombre de ministres. Et après, mine de rien, même si pour l'instant ce ne sont peut-être que des mots, ça semble faire réagir un certain nombre de personnes. J'ai entendu récemment le président de la FNSEA, qui a été cité, enfin, en tant que syndicat, pas mal cet après-midi, inviter le ministre à travailler autrement, plutôt qu'à essayer de faire produire autrement les agriculteurs. Je ne me prononcerai pas en particulier sur cette sortie-là. Ce que je peux juste vous dire, c'est que nous, on va continuer à travailler beaucoup, et notamment pour créer les conditions de la transition. Alors maintenant, juste pour passer du discours à des choses un tout petit peu plus concrètes, je ne vais pas reprendre tout le projet agroécologique point par point, mais je voudrais juste illustrer par quelques exemples concrets d'actions qu'on entend mettre en œuvre dans les mois qui viennent, comment les trois axes, donc capitaliser, connaître, diffuser, former et inciter, comment on va les mettre en œuvre par des actions concrètes. Alors le premier point, alors il n'est pas forcément mentionné dans le projet agroécologique, mais puisque vous l'avez évoqué cet après-midi, que ça me paraît très juste, je vais revenir un petit peu sur la question du foncier de l'installation. Et là, il y a une vraie réflexion qui va s'ouvrir dans le cadre de la loi d'avenir, qui sera soumise au débat assez prochainement. Il y a notamment un conseil supérieur d'orientation de l'agriculture qui se réunira lundi prochain pour mettre en débat un certain nombre de sujets dont le foncier et l'installation feront partie. Alors parmi les quelques idées qu'on va mettre sur la table, même si ça n'épuise pas le débat, il y a premièrement le souhait d'arriver à mettre en place au niveau régional des schémas d'aménagement du territoire avec une identification claire des espaces agricoles et naturels. Ce n'est pas le cas aujourd'hui parce que s'il y a un certain nombre d'orientations générales, ce n'est pas forcément traduit pour être concret par de la cartographie et du coup c'est d'autant plus difficile derrière de souhaiter, même si ces documents ne deviennent pas prescriptifs, mais en tout cas qu'ils deviennent une véritable référence pour l'élaboration de documents d'urbanisme comme les SCOT et les PLU auxquels vous avez fait référence. Et puis il faudrait aussi que ces schémas régionaux développent un peu plus une ligne prospective par rapport à ce qui peut exister aujourd'hui. Ensuite, il faudra qu'on arrive à donner, dans la gestion du foncier et dans son objectif de préservation, une priorité à l'installation et au développement de projets agroécologiques dont l'agriculture biologique fait partie. On a deux outils concrets pour arriver à faire ça. Le premier, c'est le contrôle des structures, l'outil par lequel on donne des autorisations d'exploiter aux agriculteurs qui demandent à exploiter une terre. Et puis l'autre, c'est les SAFER, dont on a parlé. Donc, je suis assez d'accord avec toi, Joël, sur le fait que c'est un bon outil en soi. Un des aspects sur lesquels il faudra notamment qu'on travaille, c'est la gouvernance des SAFER. On ne va pas forcément faire la révolution du grand soir des SAFER, mais il y a quand même moyen d'ouvrir, ne serait-ce qu'un petit peu, la gouvernance par rapport à ce qui existe aujourd'hui, et ça sera déjà un pas important. Donc ça, c'est des éléments qui permettront d'améliorer à la fois l'objectif de préservation des terres agricoles, qui est une chose en soi, et après de l'attribution prioritairement des terres agricoles à certains types d'agriculteurs qu'on souhaite soutenir. Alors après, tout en disant ça, je suis quand même obligé de brosser le tableau complet, c'est-à-dire que on n'a pas une ferme France qui appartient à l'État, comme vous le savez, donc on est obligé de tenir compte du rapport entre les propriétaires et les locataires dans cette démarche-là. Mais je pense que les quelques éléments que j'ai dit, il ne devrait pas y avoir trop d'hostilité sur le sujet. Et puis je relève, j'ai déjà eu l'occasion de le faire dans les assises de l'installation, que j'ai le plaisir d'animer par ailleurs, un certain nombre de démarches intéressantes, même si elles ne correspondent pas exactement aux outils dont dispose l'État, mais après tout, c'est intéressant d'avoir aussi des initiatives comme celle de Terre de Liens, et je note le fait que c'est très reconnu et très apprécié par le syndicat des jeunes agriculteurs. Après, je vous dis un mot sur la recherche. L'agroécologie, c'est déjà une des priorités de l'INRA. Bon, c'est bien, ils font quand même un peu des choses, même si c'est joli de le dire. On va s'efforcer de faire en sorte qu'ils en fassent encore plus, qu'ils l'affichent, qu'ils le diffusent, qui n'oublie pas l'agriculture biologique, et concrètement, ça traduira par les contrats d'objectifs qui seront signés avec le ministre mi-2013. Ensuite, vous avez vu dans le projet agroécologique la mission que le ministre a confiée à Marion Guillou. Alors, elle s'appuie sur un travail de synthèse, beaucoup de travaux qui existent déjà. Son objectif, c'est d'identifier des fonctionnalités pour pouvoir ensuite non pas les plaquer sur les différents territoires, mais pour pouvoir aider les agriculteurs à construire eux-mêmes leur système agroécologique à partir d'un certain nombre de briques. Après, il y a le grand sujet du développement agricole. Alors, le développement agricole, c'est quoi? C'est depuis l'action des instituts techniques agricoles jusqu'à l'action du conseiller technique de la chambre d'agriculture ou d'une CIVAM, par exemple, pour diffuser un certain savoir agricole. Alors, première idée, on va s'appuyer sur l'ensemble des réseaux et leur diversité. J'en cite quelques-uns, ils ont déjà été évoqués au cours de la journée. Il y a les chambres d'agriculture, il y a les coopératives qui sont quand même les prescripteurs importants dont on doit tenir compte. Il y a les CIVAM, il y a les groupes d'agriculture biologique, qu'ils soient régionaux ou départementaux. Notre objectif, c'est pas d'aller se fâcher avec tout le monde en disant voilà, il y a une agroécologie absolue, c'est celle-ci qu'on veut. Il faut qu'on travaille avec tout le monde. Je ne dis pas qu'aujourd'hui toutes les chambres font déjà de l'agroécologie, mais il y a quand même un certain nombre d'initiatives intéressantes, vraiment, qui existent et qui sont assez en pointe sur le sujet. Donc c'est plutôt sur ce genre de levier-là qu'on va chercher à agir en les amplifiant. Ensuite, on dispose d'un pouvoir d'orientation assez important entre les mains du ministre en orientant les crédits du CASDAR. Le CASDAR, c'est quoi? C'est un compte d'affectation spéciale qui est alimenté à partir d'une taxe sur le chiffre d'affaires des agriculteurs. C'est quelque chose qui est symboliquement très important pour les agriculteurs puisque c'est quelque part un peu leur argent qu'on leur redistribue en orientant le développement agricole. mais le ministre, il a un pouvoir d'orientation assez important dessus. Et donc, on va commencer la semaine prochaine un cycle de concertation pour définir le programme 2014-2020 suivant lequel seront attribués ces crédits, en donnant d'une part la priorité à l'agroécologie et d'autre part en renforçant deux aspects qui aujourd'hui peuvent être quand même renforcés. C'est la transversalité d'une part d'action entre les différents organismes, parce que je caricature un tout petit peu, mais l'objectif c'est pas d'avoir d'une part une Fédération nationale de l'agriculture biologique qui avance sur l'agriculture biologique, d'autre part les chambres qui font aussi, même si pour l'instant ça peut être considéré comme un peu marginal, un certain nombre de choses sur l'agriculture biologique, mais qui n'avancent pas dans le même sens. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est arriver à développer la transversalité, donc on aura les moyens de le faire dans ce nouveau programme 2014-2020. Et puis on veut renforcer aussi la territorialisation. Voilà, et après je vous donne juste un exemple, parce que donc derrière renforcer les crédits pour l'agriculture, enfin pour l'agroécologie, on a notamment indiqué qu'on souhaitait qu'il y ait une dynamique croissante sur l'utilisation des crédits au sein de l'enveloppe qui a priori reste à peu près constante pendant la période 2014-2020 au service du développement de l'agriculture biologique. Et puis dès 2013, alors les sommes que je vais vous donner, elles vont paraître un tout petit peu dérisoires, surtout si je compare aux 9 milliards qui ont été évoqués tout à l'heure sur les crédits globaux de la PAC, mais quand même, ce n'est pas tout à fait des aides directes aux agriculteurs, il s'agit ici de développement agricole, donc l'effet levier de ces crédits, il est quand même a priori plus fort que les aides directes. Donc on a dit en 2013 qu'on allait débloquer 3 millions d'euros supplémentaires pour des actions en faveur de l'agroécologie. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 5 millions d'euros supplémentaires. D'une part, 2,5 millions d'euros sur un appel à projet qui va être lancé prochainement. Puis, alors je vous le dis, je fais un peu de pub, mais parce que comme je suis persuadé que sur le terrain, c'est des choses qui auront de la résonance, l'idée étant de sélectionner, alors peut-être une cinquantaine ou une centaine, on verra, projets d'agriculteurs, mais pas forcément que des agriculteurs, qui travaillent ensemble sur soit de la mise au point, soit de la diffusion de systèmes agroécologiques, en s'appuyant sur un organisme de développement, donc je recite mes exemples un peu tarte à la crème maintenant, les CIVAM, les GAM, coopératives, chambres d'agriculture, tous ces gens-là ils sont susceptibles d'appuyer l'action de ces agriculteurs, avec un accent mis sur la diffusion de ce projet. Voilà. Donc ça c'est une première chose qu'on va faire, et puis ça nous aidera, et vous verrez, je referai le lien tout à l'heure, à développer aussi la notion de groupement d'intérêt économique et environnemental qui sera un des objets de la loi. Et puis ensuite, on a 2,5 millions d'autres euros qui seront mis, alors par exemple sur l'Institut technique de l'agriculture biologique, sur l'Institut technique pour l'apiculture et les pollinisateurs, et puis un certain nombre d'appels à projets qui seront orientés sur des sujets comme l'antibiorésistance en termes de recherche. Sur l'enseignement agricole, il y a déjà aujourd'hui un certain nombre de choses qui sont faites. Il y a par exemple dans les différentes fermes qu'on a dans nos lycées agricoles, au moins 50% qui ont au moins un atelier en agriculture biologique. C'est un premier pas, ça n'épuise pas le sujet. Dans le cadre de la loi d'avenir, on a ouvert une grande concertation sur l'avenir de l'enseignement agricole. Quand ils l'ont ouvert, Stéphane Le Foll et Vincent Payon ont bien insisté sur la notion de l'agroécologie qui doit devenir une priorité. Ça suppose de retravailler en profondeur les référentiels pédagogiques et les programmes. Et ça suppose notamment, je le dis parce que c'est un petit élément sociologique qui est intéressant, de soutenir la formation des professeurs, parce que souvent ils sont face à un public de futurs agriculteurs qui pensent peut-être encore un petit peu que la plus belle chose pour un agriculteur c'est d'avoir le plus gros tracteur. J'ai entendu des lycéens sur le terrain qui disaient ça et c'est assez frappant. Et finalement l'enseignement arrive à leur faire sortir de cette idée reçue. Donc il y a un vrai enjeu à renforcer la capacité aussi de notre corps pédagogique sur ce sujet. Bon, je passe rapidement après sur l'objectif de valoriser les différentes réussites. Il y a un site web qu'on a mis en place, je pense que vous l'avez tous vu les uns et les autres. Nous, on est très preneurs de remarques constructives qui nous permettront de l'améliorer. Et puis, il y a les trophées de l'agriculture durable qu'on a décidé de réorienter sur le sujet de l'agroécologie. Après, il y a la PAC. Bon, il ne faut pas que je dépasse de trop. Ouais, mais je peux peut-être le faire. Mais c'est un sujet difficile. On est obligé de travailler dans un cadre communautaire qui est ce qui est. Alors, je veux bien les règles. Il y a les règles de l'OMC qu'on pourrait renverser, c'est vrai. Il y a un ministre de l'Agriculture qui aurait pu se positionner encore plus forcément en renversant complètement la table de la négociation au niveau européen. Tout ça, on aurait pu le faire. Mais on a quand même obtenu un certain nombre de choses en se positionnant sur des choses qui peuvent peut-être paraître modestes, mais qui en fait vont avoir enclenché, parce que ce sont des choses qu'on a engrangées au niveau du Conseil des ministres, des véritables outils de réorientation qui représentent un changement historique par rapport à ce qu'on a décrit précédemment. Déjà, il y a cette vieille idée qui est encore un peu exacte quand on regarde les statistiques au niveau européen, que 80% des aides vont à 20% des agriculteurs. Une des raisons fondamentales de ça, c'est que le système des aides au niveau européen, alors il vaut ce qu'il vaut, mais il est comme ça, fait que les aides sont attribuées en fonction de la surface. Voilà, du coup, celui qui a plus de surface, forcément, il a plus d'aides. Ceci d'autant plus que la Commission dit qu'il faut que les aides convergent. Alors, quelque part, les aides convergent, c'est bien, parce que ça veut dire qu'on quitte les références historiques, qui à un moment sont plus tellement justifiables, mais néanmoins, il y a toujours cette logique de plus on a de surface, plus on a d'aide. Et là est arrivé Stéphane Le Foll avec l'idée de majorer l'aide sur les premiers hectares. Cet outil a été accepté tant par le Parlement européen que par le Conseil des ministres de l'Agriculture. Il est maintenant dans le texte, donc il sera finalement approuvé. Et ça, c'est un outil de redistribution très important. C'est pas juste parce que les petites fermes, c'est joli, mais c'est parce qu'il n'y a pas que des logiques économiques fondées sur l'agrandissement qui sont synonymes de rentabilité économique. Et donc, avec cet outil de majoration de l'aide sur les premiers hectares, il y a un vrai facteur de redistribution très important. Deuxième évolution historique quand même que je dois souligner, c'est ce que Stéphane Le Foll a réussi à faire en termes de négociation au niveau du Conseil en remontant le taux possible pour attribuer des aides couplées. Parce que les aides couplées, alors on ne va pas y arriver à recoupler toute la PAC, c'est pas possible. Mais rien que de passer de 10% à 12%, c'est un premier chemin vers ce que le Parlement européen a demandé, c'est-à-dire avoir 15% des crédits qui puissent être orientés sur des aides couplées, c'est un changement historique qui mérite vraiment d'être souligné. Alors que d'autres États membres auraient voulu complètement le réduire dans une logique, je dois le dire, assez libérale. Bon, je m'en tiens là pour le premier pilier, parce que sinon je pourrais encore vous raconter beaucoup de choses. Sur le deuxième pilier, qui représente à peu près 15, 16, avec peut-être une croissance à l'avenir des crédits, en tout cas en France, sur la PAC. Alors, un des outils clés du deuxième pilier sont bien sûr les mesures agro-environnementales, qu'on va mobiliser avec un objectif d'augmenter le coût total mobilisé sur ces mesures, avec à la fois des MAE ciblées comme il existe aujourd'hui, mais aussi des MAE systèmes qui nous paraissent très importantes parce que ça permet d'engager un changement global sur l'exploitation. Après, il n'y a pas que les MAE qui contribuent au projet agroécologique, il y a aussi des aides aux investissements, où on pourra donner soit des taux d'aide supplémentaires, soit des priorités en termes d'attribution de crédit aux projets qui répondent à l'agroécologie. Très concrètement, ça peut être l'acquisition d'une machine agricole qui permet de faire des semis directs. Ça, il y a besoin de machinisme particulier quand on fait de l'agroécologie. Après, il y a les dépenses de formation, de conseil et d'animation qui ont peut-être été un peu sous-utilisées dans la période actuelle. En tout cas, notre objectif, c'est demain de beaucoup plus les utiliser. Après, il y a les termes d'innovation et de coopération, pareil, qu'on entend développer. Il y a les groupes opérationnels, sans doute, dont vous avez entendu parler, qui font partie du partenariat européen d'innovation agricole. Et nous, on souhaite les mettre en place, ces groupes, et orienter leur action autour de l'agroécologie. Et puis après, il y a ces fameux groupements d'intérêts économiques et environnementaux. Donc c'est quoi cette espèce d'objet nouveau? C'est en fait l'idée que des agriculteurs qui agissent de façon collective au niveau d'un territoire, prenons par exemple un parc naturel régional, ou prenons un territoire de groupe d'action locale, ou prenons peut-être des territoires un peu plus petits, enfin, c'est pas juste trois agriculteurs, mais c'est pas non plus un département ou une région entière, qui souhaitent engager des changements, qui ont donc besoin soit d'investir, soit de changer leur pratique agricole. On s'est posé la question, et puis on la soumettra au débat, de savoir s'il valait mieux labelliser ces groupements d'intérêts économiques et environnementaux, c'est-à-dire reconnaître des actions, soit faites par des COP, soit faites peut-être par des CIVAM ou différents groupes de développement agricole comme il peut en exister, ou s'il fallait créer une structure nouvelle. Notre orientation à ce stade, c'est plutôt de labelliser les structures existantes, parce que comme je disais avant, un des fils conducteurs, c'est la diversité. Donc si on avait créé une nouvelle structure juridique unique pour répondre à cet enjeu, il nous semble, mais on en discutera, que ce n'était pas la bonne réponse. Et après, concrètement, ils vont bénéficier de quoi, ces GIE? Ils vont bénéficier d'une priorité pour l'accès aux aides, et ils vont bénéficier aussi de taux bonifiés, notamment sur les mesures agro environnementale, puisqu'il y a des propositions très concrètes qui ont été faites par la Commission sur ce sujet et qu'on entend mobiliser. Et après, je termine juste sur l'animation et la gouvernance de tout ça. Au niveau national, on s'était engagé à mettre en place un comité de suivi pour suivre le projet Agriculture produisons autrement. Nous allons le faire d'ici juin ou septembre. De la même façon, on pense qu'au niveau régional, comme je disais avant, ça répond à l'objectif de territorialisation. C'est très important d'avoir une animation, d'ailleurs avec un copilotage entre l'État et la région. Je crois que M. Loy, vous avez indiqué avant qu'il y avait déjà beaucoup d'actions qui sont faites par les collectivités. On en est tout à fait persuadé et on pense que du coup, une formule de copilotage est quelque chose de bien. Et l'idée du coup, c'est d'animer tout ce projet en sortant progressivement de la co-gestion. Enfin, en sortant de la co-gestion, je ne sais pas pourquoi je dis progressivement. Et l'idée étant d'avoir une construction avec tous les acteurs, c'est-à-dire mettre tous les acteurs dans leur diversité autour de la table. Voilà, je suis désolé, j'étais un petit peu long. Je vous remercie pour votre attention.